Le silence des petits papiers, chapitre 4. Les cigales se grattaient le ventre, stridulant à cor joie sur l'enclave des papes. Les touristes se répandaient dans les ruelles. L'été battait son plein. Seuls les anciens se ménageaient une sieste en attendant que le soleil bascule derrière la colline. Une effervescence inhabituelle gagnait le village. La même frénésie qui se renouvelait chaque deuxième samedi de juillet. C'était la fête. Petits et grands pouvaient goûter à son charme et à sa folie. Fier de son travail, Pedro Munoz était l'homme de l'ombre de la cave des Coteaux. Depuis plusieurs années, il se démenait comme un diable pour que la renommée du divin breuvage se répande sur toutes les bonnes tables. Originaire du Portugal, notre homme, diplômé d'une prestigieuse école de commerce, abandonna une carrière lucrative dans la publicité pour se fixer dans son petit coin de paradis. Il avait enfin le sentiment de participer à une belle aventure. Sous les platanes séculaires, les villageois échangeaient leur point de vue sur la sélection de la confrérie. Comme chaque été, depuis une trentaine d'années, une reine, un roi, et un lieutenant, désigné parmi d'éminentes personnalités, présidait aux cérémonies du chapitre. Le showbiz représentait l'essentiel de ceux qui s'étaient retrouvés à la tête d'un royaume de pacotille. Pedro se chargeait de proposer les futurs souverains. Il se penchait plus d'un an à l'avance sur une liste qu'il soumettait aux dirigeants de la cave et aux grands maîtres. Un véritable parcours du combattant avant d'aboutir à l'acceptation d'un comique, d'un sportif ou d'un acteur célèbre. Ils étaient habitués à cette course contre la montre. Ils travaillaient toujours comme cela. Lorsque la compagnie adoubait une candidature, ils se précipitaient sur les préparatifs du millésime suivant. Le soleil plombait l'atmosphère. Les voitures s'aggloméraient sur le long ruban d'asphalte serpentant au milieu des vignes. Tous se dirigeaient vers la place du château, lieu de ralliement des disciples de Bacchus. Un nombre conséquent de véhicules était contraint de se garer loin, sur les bas-côtés de la route, et de terminer le périple à pied. Plusieurs milliers de badauds rejoignaient dans une procession hétéroclite les vieilles ruelles. Les chats occupant d'ordinaire le pavé se réfugiaient sur les hauts murs inaccessibles. Deux journées de folie, ponctuées par un feu d'artifice et un bal en plein air, réjouissaient les vacanciers. Pedro s'inquiétait. Dans quelques heures, il libérerait les grilles d'accès aux caves du château. Dans un cérémonial émouvant, la reine, entourée des 25 membres de la confrérie, s'emparerait d'une masse et briserait symboliquement le mur emprisonnant une cuvée d'exception. Il faudrait canaliser la foule des curieux, tout en permettant aux spectateurs de s'imprégner de l'atmosphère. Il n'y avait jamais eu d'incident majeur lors des précédentes éditions, mais parfois quelques petits malins réussissaient à pénétrer dans le sein des saints. Cela ne prêtait pas à conséquence. Avec un peu de doigté, l'intrus regagnait son rang. Les maîtres vignerons, dans leur tenue de gala, pouvaient reprendre possession de leur domaine. La vie de l'ordre est rythmée par ces deux chapitres annuels, le plus technique étant celui d'hiver. À la fin du mois de janvier, ces œnologues avertis se réunissent afin de procéder à la sélection des meilleures cuvées. Ici, la tradition est bien ancrée. Seuls les breuvages issus des vieilles vignes, plantées par leurs aïeux, sur les pentes les plus ensoleillées, participent à la dégustation. Depuis la nuit des temps, les vendages s'effectuent à la main sur ces précieuses parcelles. Le grand maître effectua son discours d'intronisation. Le public écoutait religieusement ses propos identiques à chaque saison. Seul le nom des heureux récipiendaires changeait. Ces derniers devaient promettre de défendre en toutes circonstances la dive bouteille, avec modération bien entendu. L'ombre était rare sur l'esplanade. De remerciement en remerciement, La cérémonie traîna en longueur. Un tonnerre d'applaudissements marqua le passage à l'étape suivante. La reine et son cortège se dirigèrent vers le mur édifié l'année précédente. Un membre lui remit la masse. L'outil paraissait énorme entre ses mains délicates. Elle esquissa une grimace en la soulevant. Elle ne devait pas décevoir. Elle mobilisa son énergie, prit son élan pour cogner le mur. Un bruit sourd se répandit dans le couloir d'accès. Mais la cuvée était toujours emmurée de l'autre côté. Certains rirent sous cap. D'autres regrettèrent d'avoir choisi une jeune femme aussi frêle. La plastique irréprochable de cette reine d'un jour avait conquis les votants. Le roi s'approcha et lui proposa de l'aider. Il fallait respecter la tradition. Elle devait ouvrir une brèche dans la cloison blanche qui obstruait l'entrée. Ils se saisirent du manche à quatre mains et s'entraînèrent à faire quelques mouvements dans le vide. Les officiels, courageux mais pas téméraires, reculèrent de quelques dizaines de centimètres. Le photographe esquissa un pas de côté, tandis que s'abattait promptement la masse. Il rata la photo. Le mur venait de céder sous les efforts conjugués du couple royal. Deux employés de la cave les relayèrent. Des milliers de magnums venaient de se voir signifier la fin de leur année sabbatique. Les bouteilles seraient évacuées vers la cave des coteaux. La commercialisation de la cuvée Marot pouvait commencer. Bien entendu, les souverains et le lieutenant bénéficieraient d'une dotation substantielle du produit libéré. Pedro supervisait discrètement le bon déroulement des opérations. La tournure des événements le satisfaisait. Pendant que les disciples dégustaient le bon vin, pénétra à l'intérieur de la cave voûtée du château. Il effectuait machinalement son rituel. Il s'enfonça d'une dizaine de mètres. Il aimait s'imprégner des odeurs particulières des lieux. Ses pensées vagabondaient des cèpes au soin des assemblages, à la sélection drastique qui aboutissait à la mise en bouteille de cette cuvée de prestige. Il songeait à tout ce merveilleux travail, à la conjonction du ciel et de la terre, pour parvenir à régaler les palais les plus exigeants. L'alignement des magnums le ravit. Les reflets de la lumière diaphane sur les filets dorés donnaient un aspect irréel à cette vision. Encore quelques enjambées et il serait au fond. Il s'enfonça dans le sol sablonneux. Il buta contre une aspérité et faillit se retrouver au sol. Il voulut voir l'objet de cet accrochage. Il alluma la torche dynamo. Cette dernière n'émit qu'une pâle lueur. Il tourna la manivelle durant quelques secondes. Lorsqu'il ralluma sa lampe, il fut saisi d'effroi. Il se reprit un instant et regarda à nouveau par terre. Il avait buté sur une chaussure, un mocassin plus précisément. Il dégagea un peu le sable autour, un pied se trouvait dans la chaussure. Pour Pedro, la fête vira au cauchemar. Il se trouva pris entre deux sentiments contradictoires. Il fallait réussir le moment le plus important de l'année et surtout révéler aux gendarmes sa macabre découverte. Il décida d'attendre la fin des libations sur l'esplanade. Il fit interrompre l'évacuation des magnums et verrouilla la grille d'entrée. D'innombrables questions se succédèrent dans sa tête. Aucune réponse ne fut de nature à répondre à ses interrogations. Il n'avait pas voulu découvrir davantage le cadavre. Il ne se souvenait pas d'une disparition non élucidée. La cave Marot décelait un mystère.